Cet instinct d'abnégation que nous avons trouvé en Allemagne est étranger à l'Italie. En cela comme en tout, l'opposition des deux peuples est tranchée. L'Italien a la garde de s'abdiquer lui-même et de se perdre avec Dieu et le monde dans un même idéalisme. Il fait descendre Dieu à lui, il le matérialise, le forme à son plaisir. Il y cherche un objet d'art. Il fait de la religion, et souvent de bonne foi, un objet de gouvernement. Elle lui apparaît dans tous les siècles sous un point de vue d'utilité pratique. La divination des Étrusques était un art de surprendre aux dieux la connaissance des intérêts de la terre, une partie de la politique et de la jurisprudence. Les prières et les formules augurales sont de véritables contrats avec les dieux. L'augure cherche les termes les plus précis, ne promet rien de trop, ne s'engage pas, prend ses précautions contre l'autre partie. Il ne craint pas de fatiguer les dieux d'interrogations et de stipulations nouvelles. Pour trouver les plus beaux raisins, pour attraper un oiseau perdu, on prenait les litus et l'on traçait des lignes sacrées. Le droit canonique comme le droit augural s'appliquait au gouvernement de ce monde. On sait avec quel art l'Église de Rome atteignit et régla toutes les actions des hommes comme matière du péché. La théologie fut enfermée, bon gré mal gré, dans la jurisprudence. Les papes furent des légistes. « Nous savons ici les choses de Dieu », leur écrivait un roi de France, « mieux que vous autres, gens de loi ». L'Italie est le seul peuple qui ait eu une architecture civile, aux époques diverses où les autres nations ne connaissaient que l'architecture religieuse. Le mot « pontifex » signifie « constructeur de pont ». Les monuments étrusques, différents en cela de ceux de l'Orient, ont tous un but d'utilité pratique. Ce sont des murs des villes, des aqueducs, des tombeaux. On parle moins de leurs temples. L'Italie du Moyen-Âge bâtit beaucoup d'églises, mais c'était les lieux où se tenaient les assemblées politiques. Tandis que l'Allemagne, l'Angleterre et la France n'élevaient que des édifices religieux, l'Italie faisait des routes, des canaux. Aussi l'Allemagne devança l'Italie dans la construction de ses prodigieuses cathédrales. Jean Galea Sforza fut obligé de demander des architectes à Strasbourg pour fermer les voûtes de la cathédrale de Milan. Si l'individualité italienne ne se donne pas à Dieu sans condition, combien moins à l'homme? Vous trouverez dans l'Italie du Moyen-Âge plus d'une image de la féodalité. Les lourdes armures, les puissants coursiers, les forts châteaux, jamais ce qui constitue la féodalité elle-même, la foi de l'homme en l'homme. L'héroïsme italien est de nature plus haute. Que lui importe un homme périssable, une chair mortelle et ce cœur qui bientôt ne battra plus? Il sait mourir, quoiqu'il n'aille pas chercher la mort, mais mourir pour une idée. Je sais dans telle forteresse tel homme qui, au milieu des plus rudes épreuves, gardera jusqu'à la mort le secret de la liberté. Tout autre dévouement et simplicité, enfance aux yeux des compatriotes de Machiavel. La recherche aventureuse des périls inutiles, la déification de la femme, la religion de la fidélité, la rêverie enthousiaste du monde féodal, tout cela excite en eux un rire inextinguible. Leur poème chevaleresque est la satire de la chevalerie, l'Orlando Furioso. Point d'association industrielle ni militaire, si ce n'est pour un but précis, pour un intérêt et pour une idée. Le génie italien est un génie passionné mais sévère, étranger aux vagues sympathies. Ce n'est point le monde naturel de la famille, de la tribu, c'est le monde artificiel de la cité. Circonscrit par la nature dans les vallées de l'Apennin, isolé par des fleuves peu navigables, il s'enferme encore dans des murs. Il y règne loin de la nature dans des palais de marbre où il vit d'harmonie, de rythme et de nombre. S'il en sort, c'est pour se bâtir dans ces villes-là des jardins de pierre. Et d'abord, il se caractérise par l'harmonie de la vie civile, par la législation, par la jurisprudence. Après tant d'invasions barbares, l'indestructible droit romain reparaît à Bologne et par toute l'Italie. Les subtilités de Tribonien sont subtilisées par Accurse et Bartole. À côté des juristes reviennent les mathématiciens. Cardan et Tartaglia continuent Architas et Pythagore. Leur géométrie abstraite est reçue dans la géométrie concrète de l'architecture, l'art de la cité matérielle comme la législation et l'art de la cité morale. À Rome, à Florence, la figure humaine dans les tableaux reproduit la sévérité, quelquefois la sécheresse architecturale. Ce n'est guère qu'au nord, dans le coloris vénitien, dans la grâce lombarde, que la peinture consent à humaniser l'homme. Pour la nature, elle osera rarement se montrer dans les tableaux. Peu de paysages, peu de poésie descriptive en Italie. La poésie s'y inspire du génie de la cité. Sans doute, dans ce pays, tout homme chante. Le climat y délie toute langue. Mais le vrai poète italien, c'est l'architecte de la cité invisible, dont les cercles symboliques sont la scène de la Divina Commedia. Dante est l'expression complète de l'idée italienne du rythme, du nombre. Il a mesuré, dessiné et chanté son enfer. C'est encore sous la forme harmonique de la cité que l'histoire de l'humanité a paru au fondateur de la philosophie de l'histoire, le Dante de l'âge prosaïque de l'Italie, Giambattista Vico. dans la dualité du corso et du ricorso, dans la triplicité des âges, dans la beauté géométrique de sa forme. La scienza nuova me représente le génie rythmique de l'Étrurie et de la grâce pythagoricienne. Lors même qu'il sort de la cité, l'Italie en transporte, en imprime partout l'image. On sait avec quel soin sévère la religion étrusque et la politique romaine mesuraient et orientaient les champs. Partout, l'agrimensor et l'augure venaient, derrière les légions conquérantes, calquer la colonie nouvelle sur la forme sacrée de la métropole. Tandis que chez les nations germaniques, l'homme s'attache à son champ, s'y enracine et aime à tirer son nom de la terre, l'Italien lui donne le sien. Il n'y voit qu'un rapport de plus avec la cité, qu'une matière d'intérêt civil. Le juriste, le stratégiste viendront reconnaître la terre pour en régler ou déplacer les limites, pour transférer ou maintenir la propriété selon les moyens divers de leur art. La mère de la tactique comme de la jurisprudence, c'est l'Italie. La guerre est devenue une science entre les mains des condottieri italiens, les Albéric, les Sforza, les Malatesta de la Romagne, les Braccio, les Baglioni, les Piccinino de l'Umbrie. L'Italie fournit le levant d'ingénieurs. Les fondateurs de l'architecture militaire sont des Italiens. Le premier capitaine de l'Antiquité, César, appartient à l'Italie. Le premier des temps modernes fut un homme de race italienne adopté par la France. Quand nous ignorerions l'origine de Napoléon, le caractère à la fois poétique et pratique de son génie, la beauté sévère de son profil, ne ferait-il pas reconnaître le compatriote de Machiavel et de Dante? Il est temps d'en finir avec ces ridicules déclamations sur la mollesse du caractère italien. Voulez-vous juger la valeur italienne par la populace de Naples? Jugez donc la France par les canuts de Lyon. Laissons les gentlemen anglais et les poètes allemands aller chercher à la table des Italiens de Rome et de Milan des inspirations de mépris sublime et de colère généreuse. N'ont-ils pas aussi insulté la Grèce au tombeau la veille de sa résurrection? Hommes légers et cruels, qui confondaient sous le même opprobre les Lazzaroni et les Romagnols, les héros et les lâches, avez-vous donc oublié l'armée italienne de Bonaparte et tant de faits d'armes des Piémontais? Et naguère encore, ceux que vous accusiez de ne pas savoir tirer l'épée pour leur pays, n'ont-ils pas su mourir pour vous? L'Italie a changé, dit-on, et l'on croit avec un mot avoir expliqué et justifié ses malheurs. Et moi, je soutiens qu'aucun peuple n'est resté plus semblable à lui-même. J'ai déjà marqué dans ce qui précède la perpétuité du génie italien, des temps anciens aux temps modernes. Il me serait trop facile de la suivre dans une foule de détails moins importants. Le costume est presque le même, au moins dans le peuple. Je vois partout le Venetus Cuculus, l'aiguille d'acier dans les cheveux des femmes, les colliers, les anneaux comme à Pompéi, jusqu'aux sandales et aux pileus que vous retrouverez vers Fondi. La nourriture est analogue. Dans les villes, même rue étroite, les thermopoles sont le nom du café, le prodium à midi et la sieste à la promenade du soir. En tout temps, même foule autour de l'improvisateur qu'il s'appelle Stas Dantus Grecci. On rencontre dans les philosophies de Venise, les literati en plein vent, les ignanistes de l'Antiquité. Seulement, l'Arioste et le Tasse ont pris la place d'Ennius. Dans les campagnes, même système de culture. La charrue est celle même que décrit Virgile. En Toscane, les bestiaux sont comme autrefois renfermés et nourris de feuillage, de peur qu'ils ne blessent les vignes et les oliviers. Ailleurs, ils poursuivent leur éternel voyage des montagnes aux plaines de Rome et de la Pouille, et de la plaine à la montagne. Chaque province est restée fidèle à son génie. Naples est toujours grecque, quoi qu'il fait les barbares. Le type sauvage des Brutiens s'est manifestement conservé à San Giovanni in Fiore. Les Napolitains sont toujours bruyants et grands parleurs. Naples est une ville d'avocats. Dès l'Antiquité, il y avait à Naples des combats de musique. Le génie philosophique de la Grande Grèce n'a-t-il pas revécu dans Telesio, dans Campanella et dans La Fortunée Bruno? Au midi, l'idéalisme, la spéculation et les Grecs. Au nord, le sensualisme, l'action et les Celtes. Les charpentiers, les menuisiers, les colporteurs, les maçons viennent de Novare, de Côme, de Bergame. Bergame, partie d'Arlequin, et celle aussi du vieux comique Cecilius Statius. Même perpétuité dans les contrées du centre, dans Rome et dans l'Étrurie. Le caractère cyclopéen n'est pas plus frappant dans les murs de Volterra que dans les édifices de Florence, dans les masses du Palais Pitti. La roideur de l'art étrusque reparaît dans Giotto et jusque dans Michel-Ange. Mais je compte mieux montrer ailleurs l'identité de l'Étrurie dans tous les âges. Lorsque le barbare Sylla eut dévasté l'Étrurie, il choisit une place dans la vallée de l'Arno. Il fonda une ville et la nomma d'après le nom mystérieux de Rome. Ce nom, connu des seuls patriciens, et qu'il était défendu de prononcer, était Flora. Il appela la ville nouvelle Florentia. Florence a répondu à l'augure. Le poème des antiquités de l'Italie primitive, l'Énéide venait de la colonie étrusque de Mantoue, et c'est à un Toscan, à un Florentin, qu'est Dieu le poème des antiquités du Moyen-Âge, la divine comédie. L'Italie est le pays des traditions et de la perpétuité historique. Questa provincia, dit Machiavel avec sa force et sa gravité ordinaire, pare nata resuscitare le cose morte. Au centre de la péninsule, le peuple n'a pas changé davantage. Ceux-ci n'ont jamais été propres ni à l'art ni à la science. La plupart des écrivains illustres de Rome, Catulle, Virgile, Horace, Ovide, Lucain et Juvénal, Cicéron, Tite Live, Sénèque et Lépline, une foule d'autres moins illustres lui sont venus d'autres contrées. De même au Moyen-Âge. Son théologien, son artiste sont deux étrangers, saint Thomas d'Aquin, Raphaël d'Urbain. À Rome, toutefois, vous trouverez la satire amère et mordante, le rire tragique. Lucile et Juvénal étaient romains de naissance, Salvator Rosa et Monti l'ont été d'adoption. La véritable vocation du romain, c'était l'action politique. Ne pouvant plus agir, il rêve. Contemplez cette race monumentale dans les rues et sur les places publiques, vous serez frappé de sa fierté. Ce sont les bas-reliefs de la colonne Trajane qui sont descendus et qui marchent. Pour rien au monde, le Romain ne fera œuvre servile. Il faut qu'il vienne des hommes des Abruzzes pour recueillir les moissons ou réparer les routes, des bergamasques pour porter les fardeaux. Sa femme ne daignera recoudre les trous de son manteau. Il faut un juif pour le raccommoder. La seule exportation de Rome, c'est la terre même, les haillons et les antiquités. Comme au temps où Juvénal nous montre le prêteur et le tribun recueillant la sportula de porte en porte, le Romain d'aujourd'hui mendie noblement. Sa nourriture est toujours le porc. Les charcutiers et les bouchers sont presque les seules boutiques à Rome. Toujours sensuel et cruel, il se contente de combats de taureaux, faute de gladiateurs. Accusez-le de férocité si vous voulez, mais de faiblesse, non. Son couteau répondrait. Son couteau ne le quitte pas. Le coup de couteau est un geste naturel et fréquent à Rome. Il faut voir aussi avec quelle joie furieuse il place le feu sous la peau du cheval de course. Son cri de carnaval est un cri de sang et de nivellement. Mort au seigneur abbé, mort à la belle princesse. Il ne criait pas plus fort, les chrétiens au lion. Et il faut dire aussi qu'il y a dans l'air de cette ville quelque chose d'orageux, d'immoral et de frénétique. Au milieu des plus étourdissants contrastes, parmi les monuments de tous les âges, égyptiens, étrusques, grecs, romains, au rendez-vous de toutes les races du monde, vous entendez toutes les langues excepté l'italienne. Plus d'étrangers que de romains, et des rois dans la foule. La tête tourne, le vertige gagne. Je ne m'étonne pas que tant d'empereurs qui voyaient tout cela tourbillonner à leurs pieds soient devenus fous. Une ressemblance plus triste encore entre les temps anciens et les temps modernes, c'est la solitude des environs de Rome et en général des campagnes d'Italie. Quel que fût le génie agricole des anciens latins, on voit que, dès le temps de la République, une partie de la contrée était laissée en prairie, Pratamusia, Quintia, etc. Quand on recommande le pâturage comme le meilleur emploi de la terre, ce conseil fut suivi. Il dispensait les propriétaires de résider sur leurs terres, de faire travailler les pauvres. Il leur suffisait de quelques esclaves. Il en advint à l'Italie comme à l'Angleterre au temps d'Henri VIII, où l'on disait que les moutons avaient mangé les hommes. La désolation s'étendit. César fut déjà chargé de dessécher les marais pontins. Strabon, Pline et Tacite se plaignent de la malaria. Et Lucain peut dire sans exagération « ours, nos, una capite ». Ce mot est la condamnation de l'Italie. Le désert de Rome, aussi isolé sur la terre que Venise au milieu des eaux, est le triste symbole des maux qu'a fait cette vie urbaine, urbanitas, dans laquelle s'est toujours conclu le génie italien. L'Italie a vu deux fois se reproduire dans les villes étrusques de l'Antiquité, dans les villes guelfes du Moyen-Âge, le premier développement de l'industrie et la domination des cités sur les campagnes. Deux fois aussi, contre l'industrie productrice s'est élevée l'industrie destructrice, la guerre qui a dévoré les campagnes et épuisé les villes. La guerre comme métier et calcul. La guerre, vivant d'elle-même, rampe dans l'Antiquité, au Moyen-Âge des condottieri. La pauvre Italie a peu changé et c'est là sa ruine. Elle a subi constamment la double fatalité de son climat et du système étroit de société dans laquelle elle est concentrée. Ce système a desséché et amaigri le cœur de l'Italie, Italum Robur. Je veux dire Rome et l'ancien Samnium. Dès le temps d'Honorius, la campagne heureuse avait elle-même été abandonnée sans culture. Les Germains, ennemis des cités, semblaient devoir rendre l'importance aux campagnes qu'ils se partageaient. Il n'en fut pas ainsi. Les hommes du Nord fondirent comme neige sur cette terre ardente. Les cités italiennes absorbèrent les Goths en moins d'un siècle. Les Lombards, la race la plus énergique de l'Allemagne, n'y tinrent pas 200 ans. À en juger par la physionomie du peuple et par la langue, l'influence des invasions germaniques fut toute extérieure. Les barbares ont cru souvent avoir soumis l'Italie, mais ils ont introduit peu de mots tudesques dans cet idiome indomptable. En vain, le parti allemand ou gibelin s'organisant sous la forme féodale dressa ses châteaux sur les montagnes et arma les campagnes contre les cités. Les châteaux furent détruits, les campagnes absorbées par les villes isolées par la dépopulation des campagnes, nivelées par le radicalisme de l'Église romaine, du parti guelfe et des tyrans. Elles perdirent avec l'aristocratie gibeline tout esprit militaire et la contrée se trouva livrée aux étrangers. Depuis ce temps, la tête de l'Italie, qui dans l'Antiquité était au Midi, dans la Grande Grèce a passé au nord et se trouve aujourd'hui dans la Romagne, le Milanais et le Piémont, partie celtique de l'Italie. C'est dire assez que l'Italie a peu d'espoir d'originalité et que longtemps, du moins, elle regardera la France.